explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac!
Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous emmène parcourir le monde, désormais tous les samedis à 15h, le temps d'un bivouac. Aujourd'hui, nous emboîtons le pas d'un romancier dont la vie semble tirée d'un roman, de plusieurs même, tant il a multiplié les expériences et les fonctions aux quatre coins du globe. Tour à tour médecin humanitaire, diplomate, ambassadeur, mais aussi grimpeur et même simple pèlerin. Jean-Christophe Ruffin est un écrivain en mouvement qui aime l'ailleurs autant que l'action. Il a d'ailleurs commencé à parcourir le monde avant de prendre la plume. D'abord des essais, puis des romans qui lui ont valu d'entrer à l'Académie française. Mais pas question pour notre écrivain de s'assoupir sous les honneurs et les dorures. Le corps sain et l'œil pétillant de curiosité en témoignent. L'envie d'aller voir ailleurs, d'éprouver le terrain et de rencontrer les autres ne l'ont jamais quitté. Cet après-midi, des bords de la Caspienne aux parois abruptes des Alpes, des méandres de la diplomatie sénégalaise à l'introspectif chemin de Compostelle, Jean-Christophe Ruffin nous emmène avec lui par mont et par vaux. Et en fin d'émission, le plus discrètement possible, nous partirons dans les forêts de France, écouter bramer les cerfs avec le photographe animalier Jérémy Villet, puisque la saison du brame a commencé. Voilà pour le parcours du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Couillou-Mjean et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Pierre-Yves de Roland.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est vrai, la première image que j'ai eue de Bakou, c'était la nuit. Je suis arrivée la nuit, donc il n'y avait que des lumières. Et j'ai eu, le lendemain matin, le choc de la découverte. Et effectivement, les endroits qui m'ont le plus touchée, ce sont les endroits historiques. Tout le complexe du palais des Chevanchars, la vieille ville. La péninsule d'Apcheron, je crois que j'ai une tendresse particulière pour elle. Parce que c'est un endroit magnifique. La Caspienne est une mer à laquelle on ne peut pas résister. Parce qu'elle est. Elle est traître. Elle est charmeuse. Elle est orientale. Elle peut changer d'un instant à l'autre. Elle change de couleur. Elle change de mouvement. C'est ce que mon grand-père disait, paraît-il. Il faut toujours se méfier de la Caspienne.
La voix de Shirin Melikov, traductrice, décrivant Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Daniel Fievé.
Alors nous commençons notre voyage avec vous en Azerbaïdjan, à Bakou, puisque c'est là que se déroule l'intrigue de votre dernier roman, Le Flambeur de la Caspienne, aux éditions Flammarion. Troisième volet des aventures de votre héros, Aurel Timescu, petit consul, que je situerai quelque part entre Pierre Richard et l'inspecteur Colombo, et qui voyage au gré des affectations. Et cette fois, c'est donc en Azerbaïdjan qu'on l'envoie. Pourquoi avoir choisi cette destination, Jean-Christophe Ruffin?
Comme vous le dites, c'est le troisième épisode de ces aventures. Ce ne sera pas le dernier, d'ailleurs. Ah. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est un homme qui fait une carrière un peu difficile, disons. Alors, les autres fois, il avait été envoyé dans des endroits qui ne lui plaisait pas. Et là, je trouvais intéressant de l'envoyer dans un endroit, au contraire, qui va le séduire. Parce que comme vient de le dire cette traductrice avec beaucoup de charme et de justesse, Bakou est une ville splendide. Voilà. Ouais. Donc il s'y sent très bien. Ouais. Mais il ne va pas pouvoir y rester.
À quoi ça ressemble, Bakou? Complétez la description qu'on en a eue.
Il faut dire qu'il y a trois parties dans la ville. Il y a une forteresse turque, c'est la ville traditionnelle qui a sans doute longtemps été assoupie. C'est celle qu'Alexandre Dumas a visitée quand il a parcouru le Caucase au 19e siècle. À l'époque, le naft, à l'époque, vous savez, le pétrole affleurait partout, le gaz, etc. Ouais. C'était le pays des adorateurs du soleil, du feu, etc. Il y avait cet épisode dans ses mémoires où il est sur une barque, Alexandre Dumas, puis il y a un batelier qui jette une torche et la mer s'enflamme. Bon, parce que le pétrole, il y en avait partout, mais on n'en faisait rien. Et puis, au 19e siècle, le boom pétrolier industriel, et là, ils deviennent très très riches, mais ils savent pas quoi en faire de cet argent, et ils font construire Paris. Voilà, ils font construire. Alors, c'est la deuxième partie, c'est la ville parisienne, oui. C'est le petit Paris.
Ça ressemble à Paris.
Ah, complètement, c'est haussmannien, avec les mêmes rues, les mêmes immeubles, en pierre blanche, avec des balcons en fer forgé, pareil. Et puis, la troisième ville, c'est la ville on pourrait dire soviétique et actuelle, c'est-à-dire une ville de grands immeubles. On sent le pétrole, on sent qu'il y a de la richesse. Mais en même temps, c'est pas Dubaï, ils sont pas devenus fous. Mais ils sont juste riches, quoi.
Ouais. Voilà. Alors, on l'entend à votre description, vous êtes allé sur les lieux. Hein.
Oui.
Il vous est arrivé, pas seulement pour ces trois livres-là, mais de voyager pour repérer des lieux, pour plus justement décrire un lieu dans lequel se passait l'action.
Ben pas tellement, parce que en fait, pour moi, les choses se font dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai une expérience du voyage qui est une expérience utile, je dirais. C'est-à-dire que je voyage parce qu'on m'envoie, ben, par exemple, voilà, l'ambassade. Alors je vais là-bas, ou parce que j'ai dirigé des organisations humanitaires qui m'ont amené sur un certain nombre de terrains. Donc finalement, la motivation du voyage pour moi, c'est l'action, en fait.
Hein. Ouais.
Et simplement, à travers l'action, ben, il y a aussi l'observation, c'est-à-dire qu'on voit des choses, on emmagasine, on s'en rend même pas compte d'ailleurs, des souvenirs, des images, etc. Et après, effectivement, on les restitue.
Vous avez commencé à voyager comme médecin, vous êtes neurologue. Votre premier voyage, c'était où ?
Ben en fait, c'était au cours de mon service militaire, parce que j'étais coopérant. Et vous savez que les militaires sont très organisés, mais de temps en temps, ils se trompent. Alors, on raconte que Joseph Kessel, comme ça, quand il s'est engagé, il avait marqué journaliste sur sa petite fiche. Et l'adjudant qu'il a reçu avait lu journalier. Donc, il a cassé des cailloux pendant 6 mois. Moi, j'ai pas eu ces déboires-là, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'étais neurologue, mais je sais pas pourquoi, on m'a envoyé dans une maternité. Voilà.
Donc, on m'a envoyé
en Tunisie. Voilà. Donc j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire, ce qui était pas prévu au programme, quoi. Mais ça m'a fait découvrir un autre monde, et en plongeant là encore dans l'arrière-salle, c'est-à-dire que la Tunisie peut paraître familière aux Français qui vont dans les grands hôtels de la côte, si vous voulez. Mais quand vous sortez et que vous allez, comme je le faisais, quand vous recevez des femmes qui viennent de Kairouan, etc., à dos de mulet, qui viennent accoucher dans une maternité, évidemment, là, vous avez la Tunisie profonde et c'est passionnant.
C'est la rencontre de l'autre qui vous a plu dans ces voyages, qui fait que, après cette première expérience, vous vous êtes engagé dans l'humanitaire.
Oui, parce que je m'étais fait de la médecine en choisissant ce métier, une idée qui était fausse, évidemment, quand mon grand-père l'exerçait, par exemple, ou quand Rabelais, finalement, devenait médecin, parce qu'il, simplement, c'était un grand humaniste et lettré. Donc, je voyais la médecine comme d'abord une discipline littéraire, ce qu'elle n'est plus, et puis comme une discipline d'engagement, c'est-à-dire qui vous mettait en contact, notamment pendant les guerres, si vous voulez, avec des réalités humaines très varié, très dur. Bon, après, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait mes études, je suis arrivé dans les hôpitaux, bon, ça avait un peu changé, c'était devenu très technique, très scientifique, tant mieux. Moi, quand je suis malade, je préfère voir un scientifique qu'un poète, à vrai dire, mais c'est vrai que c'est pas ça que je cherchais. Et du coup, avec cette forme d'expérience inattendue qui était cette maternité en Tunisie, ben je me suis dit c'est ça que je cherche, quoi. C'est cette médecine là que je veux, une médecine qui vous met en contact avec d'autres cultures, d'autres mondes, et une sorte de médecine totale, quoi, en fait.
Et c'est comme ça qu'à la fin des années 70 vous êtes allé en Érythrée.
Nous sommes à Kassala, petite ville soudanaise à la frontière de l'Érythrée. Cette ancienne colonie italienne rattachée à l'Éthiopie et qui lutte depuis 18 ans pour son indépendance. Le docteur Landolt de Bâle porte dans ses bras le petit Ahmed, 5 ans, victime d'un bombardement aérien. C'est un chirurgien de Berne, le docteur Engelhardt, qui va opérer. Il y a 3 mois, cet enfant a eu les 2 jambes fauchées par des éclats d'une bombe à fragmentation. Les plaies se sont cicatrisées, mais il ne peut plus marcher. Grâce à cette longue et délicate intervention, Ahmed pourra retrouver l'usage de ses jambes. Discrets et efficaces, ces hommes et ces femmes tentent de soulager les souffrances d'un peuple dont le monde veut ignorer le drame.
Alors là, c'était en 1979 avec des médecins de la Croix-Rouge suisse à Kassala, en Érythrée, pendant la guerre d'indépendance à cette époque. Vous, c'était avec Médecins Sans Frontières, mais vous avez été confronté à ce genre de situation, Jean-Christophe Ruffin.
Oui, parce que c'était d'ailleurs, j'étais là-bas à la même époque en réalité. Et Kassala, c'était à la frontière soudanaise, et je me souviens de m'être caché là, enfin en nous avait cachés pendant toute une journée en attendant qu'on vienne nous chercher de nuit, parce que les maquis n'étaient accessibles que la nuit, parce que dans la journée, il y avait des bombardements. Et c'est que je suis passé de Kassala, qui est comme un four, au plateau d'Éthiopie, enfin d'Érythrée, peut-être, sans rien voir, parce que c'était la nuit. Et au petit matin, je me suis retrouvé dans cet autre étage du monde, finalement, parce que c'est au plateau, c'est que l'Éthiopie, c'est comme une île montagneuse au milieu du désert, si vous voulez. Donc le désert soudanais dont nous venions était très monotone, très chaud, etc. Puis là, tout d'un coup, on avait l'impression de se retrouver près des nuages, en fait, sur ces hautes terres. Et ça a été un choc complet pour moi. Et c'est vrai que ce premier pays dans lequel j'ai été amené à aller, comme souvent d'ailleurs, est devenu pour moi le lieu de l'ailleurs.
Et ce premier ailleurs en a déterminé beaucoup d'autres, puisque à partir de cette date, vous n'avez eu de cesse que de repartir sur des lieux en guerre, ou en tout cas des lieux de famine.
C'était pas un goût particulier pour ça, hein, simplement c'était une vocation. Puis il faut se souvenir une chose, c'est que on est dans cette fin du XXe siècle, si vous voulez, à la fin de la guerre froide. Mmh. Mais elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que les deux grandes puissances se partagent encore le monde, hein, l'Est et l'Ouest. Et donc, personne ne peut, à titre officiel, si vous voulez, un militaire, par exemple, ne peut pas aller dans les maquis d'Afghanistan ou autre. Il n'y a que des organisations comme les nôtres, qui étaient libres, indépendantes, qui pouvaient y aller. Donc on avait une sorte de monopole, c'est un peu bête à dire, mais qui nous permettait, par la liberté que nous avions, d'aller partout. Et malheureusement, comme c'est une période où se sont multipliées des guerres très très meurtrières, qui n'étaient pas des guerres très intenses, hein, c'était pas, on tirait pas beaucoup de coups de feu, mais les populations civiles souffraient beaucoup, il y avait énormément de réfugiés, et donc c'est là que nous allions.
Sur le terrain, vous avez appris aussi à éviter les pièges, à ne pas être récupéré, utilisé par les forces en présence. D'ailleurs, votre premier livre n'était pas un roman, c'était un essai. Il s'intitulait « Le piège humanitaire ».
Oui, parce que l'Europe n'avait pas vraiment d'organisation humanitaire dans ces années 70, 80. On n'avait pas l'expérience de tout ça. Et donc, on tombait dans des pièges, vous savez, vous arrivez, vous croyez que tout le monde va vous applaudir parce que vous apportez de l'aide, etc. Mais c'est pas si simple, parce que faut pas se tromper, hein. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit, remettez-moi ce que vous apportez, ou aidez-moi, etc. Mais vous savez pas si c'est une victime, un bourreau, qui sait, vous savez pas. Et donc, il a fallu apprendre vraiment à faire tout ça, et ça m'a passionné beaucoup à ce moment-là.
Vous avez appris en avançant.
Oui, c'est-à-dire qu'on devait faire la théorie de notre pratique, c'est-à-dire pour arriver à être neutre, hein, il ne suffit pas d'arriver avec ses valises et puis de dire tiens, débrouillez-vous, il fallait comprendre la situation dans laquelle on est, être lucide politiquement, et là on peut atteindre les victimes.
Alors vous n'avez pas parcouru le monde uniquement comme médecin humanitaire, hein, Jean-Christophe Ruffin, vous avez aussi été ambassadeur, simple pèlerin, et puis il y a cette passion pour la montagne et l'escalade. Bref, pour partir bivouaquer avec vous, cet après-midi, nous mettons dans notre sac, en plus du stéthoscope, un nœud papillon, une coquille Saint-Jacques et un piolet, nous en aurons besoin.
Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il
il est 5h au Mali, quelle heure est-il?
C'était Manu Chao et Amadou et Mariam sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et nous bivouaquons en compagnie de Jean-Christophe Ruffin cet après-midi, que l'on connaît bien aujourd'hui comme romancier. Mais votre premier livre, on l'a dit hein, dans la première partie de l'émission, c'était un essai, Le piège humanitaire. Vous avez mis du temps, Jean-Christophe Ruffin, pour vous autoriser le roman.
Et je crois que j'ai eu une longue maturation, ce qui fait que finalement, bien que j'ai eu probablement envie d'écrire très tôt, je suis un écrivain tardif. Quoi. Ouais. Finalement, j'ai publié tard.
Ouais. Et puis, de façon réussie, puisqu'il y a eu de nombreux prix, dont en 2001, le prix Goncourt pour votre roman Rouge Brésil. Alors, pour situer un peu l'action, ça se passe à la Renaissance. Hein. On est aux alentours de 1550. Les Français organisent une expédition vers le Brésil, terre encore largement méconnue à l'époque. Et on suit le parcours de deux enfants qui vont embarquer, malgré eux, dans cette expédition. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie et l'idée d'écrire ce livre, Jean-Christophe Ruffin ?
Ben, j'avais donc eu cette expérience d'attaché culturel et de coopération au Brésil. J'ai beaucoup aimé ce pays, j'ai appris la langue et puis j'allais souvent à Rio. Alors, ça me frappait, c'est le jour quand l'avion allait atterrir, vous savez. En plissant les yeux comme ça, on oublie les favelas, on oublie les immeubles, tout ça, on ne voit plus que cette baie de Guanabara qui est absolument spectaculaire. Et je me disais, qu'est-ce qu'a pu ressentir un homme de la Renaissance qui arrive là pour la première fois, un Européen comme ça qui vient de sa campagne, qui arrive là. Et je pensais vraiment à ce moment-là que c'était un lieu qui était vide au moment de l'arrivée des Français. Et en fait, il n'était pas vide du tout. Je me suis rendu compte en tirant ce fil que c'était extrêmement riche. Il y avait les Indiens, il y avait les Portugais, il y avait des tas de gens qui étaient là en fait. Et il y avait autour de cette baie toute une vie et que cette histoire était une des histoires fondamentales de notre histoire philosophique parce que finalement, c'est là que s'est créé le mythe du bon sauvage. Le secrétaire de Montaigne était un rescapé de cette expédition. Et c'est lui qui lui avait soufflé cette idée du bon sauvage. Et ça, c'était un basculement complet. Hein, parce qu'avant, les Indiens, c'était des sauvages, justement. Ouais. C'était des anthropophages, etc. Et tout d'un coup, Montaigne s'écrit « Et s'ils étaient moins barbares que nous ?» Les choses changent et c'est pour ça que je trouvais ce moment de notre histoire très très romanesque.
Et avant la rencontre avec les peuples indigènes, on découvre donc dans votre ouvrage Rouge Brésil, à bord du bateau, la crainte mêlée d'excitation au moment où apparaissent les côtes de la baie de Rio.
Une terre peut-elle s'être cachée de la Bible, avoir été ignorée d'Alexandre et de Jésus-Christ, de Virgile comme d'Attila, sans que la cause d'un tel bannissement fût une grave malédiction? Sur le ponton des caravelles, la question hantait les esprits. Une étonnante horreur envahit les plus désireux de revoir la terre quand parut à l'occident la masse noire du relief, teintée d'effroi bleuté du matin. La mer, qu'ils avaient d'abord tant redoutée, était devenue peu à peu comme un écrin protecteur. Le doigt de montagne, qui écartait lentement les valves lisses du ciel et des eaux, annonçait une gigantesque rencontre dont ils ne savaient ce qu'il fallait attendre. Pour certains, c'était l'espoir. Toujours friands de cataclysmes, les anabaptistes dansaient sur le tillac en prévision d'éruptions à venir, au feu desquelles retirait le vieux monde qu'ils abhorraient.
Un extrait de Rouge Brésil, écrit par notre invité Jean-Christophe Ruffin. Ça vous passionne, cette idée de rencontre avec les autres et avec des autres qui ne vivent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes cultures?
Oui, d'ailleurs, l'épisode de Rouge Brésil, c'est une rencontre à plusieurs dimensions. C'est une rencontre avec les autres, en particulier avec les Indiens, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre à découvrir. Mais c'est une rencontre aussi avec soi-même parce que les Français, finalement, vont se diviser sur ce petit bout d'île. Il y a une sorte de choc qui se fait au moment de la rencontre des autres et qui fait éclater, en fait, vos certitudes, vos croyances, etc. Et c'est pratiquement le fil conducteur de tous mes livres, c'est ça, quoi. Cette rencontre peut se faire entre des groupes. Là, c'est le cas de Rouge Brésil. Ça peut se faire aussi entre des personnes. Ça peut être une rencontre amoureuse avec des gens qui viennent de continents et de cultures différentes. Ça peut même être dans une seule personne. J'avais écrit un livre appelé Katiba où l'héroïne finalement était partagée en elle-même par ses origines entre deux cultures. Mais c'est toujours ce qu'on retrouve partout dans mes livres. Oui.
Et c'est ce qui vous fait finalement voyager, ce choc de la rencontre?
Oui, parce que si vous voulez, je suis moi-même le fruit de ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est profondément enraciné, qui aurait pu finalement passer complètement à côté de tout ça. Au fond, je suis né dans un Berry, dans une famille française de toute éternité, si j'ose dire. J'ai été programmé pour être professeur de médecine, par les études que j'avais faites, etc. Au fond, j'aurais pu rester toute ma vie dans un couloir d'hôpital. Et donc, il y a eu cette espèce d'éclatement qui s'est produit à l'occasion de rencontres. C'est ce qui a été le plus riche chez moi. C'est, pour moi, ça a été justement ces moments de collision avec d'autres mondes.
Lorsque vous avez reçu le prix Goncourt en 2001, est-ce que vous avez pensé un temps devenir écrivain, d'en faire une profession, de n'être plus qu'un écrivain qui voyage pour écrire ensuite?
Non, mais à l'époque, j'en étais pas là. J'avais l'impression d'être un passager clandestin. Là, on me donnait un billet pour voyager en deuxième classe. C'était déjà pas mal. Mais je me suis rendu compte, je pense que c'était le sens de votre question, que je pouvais devenir un écrivain à plein temps, mais que ça ne m'intéressait pas, parce que ce qu'il y avait dans mes livres, c'était la vie. Et que si je vivais plus, il n'y aurait plus rien.
Quoi. Et puis, la vie était pleine de sollicitations aussi, comme cette proposition en 2007, Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, vous appelle, coup de téléphone, et vous propose de devenir ambassadeur au Sénégal. Mmh. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous avez hésité?
Ah oui, ça m'a surpris. Oui, alors je lui ai demandé combien de temps j'avais, il m'a dit, tu peux réfléchir, je te donne 10 minutes. Donc voilà. Alors je me suis jeté à l'eau, mais c'est vrai qu'il y avait à ce moment-là, ça n'a pas duré très longtemps, mais un vrai désir de la part du nouveau président en particulier, de rompre avec la France-Afrique, etc. Et donc j'ai accepté ça comme un défi. Bon, j'ai pas regretté du tout, mais c'était un engagement. Et moi, j'ai pas du tout vu ça comme c'était pas le Club Med. Hein. C'était non. Fallait travailler et fallait arriver en connaissant bien les dossiers et tout. De ce point de vue-là, j'ai fait le job. Quoi.
Vous y êtes resté 3 ans. On sent toute la nuance quand même, un peu une part de déception. Hein. Ça ne s'est pas passé aussi bien que ce que vous espériez.
Si, c'est-à-dire que, ça s'est pas passé non plus aussi mal que je le craignais. Donc, si vous voulez, je peux pas me plaindre. Non, vraiment, j'ai été passionné par ce travail et je crois que ça s'est très bien passé avec les Sénégalais. Ouais. Simplement, la France était peut-être pas mûre pour changer complètement son type de relation. Il faut plus de temps et surtout faut plus de gens. Ouais, je pouvais pas faire ça tout seul. Et donc, j'étais peut-être un peu précurseur.
Ouais. En 2010, vous quittez donc l'ambassade du Sénégal et là vous allez vous lancer peu de temps après dans une aventure plus solitaire, plus personnelle. Vous allez suivre l'un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, pas le plus fréquenté, hein, celui du Nord. Vous aviez envie d'une longue marche pour faire le point, pour vous recentrer sur vous.
Ah oui, parce que la vie diplomatique, si vous voulez, en particulier dans un grand poste comme ça, avec une grande résidence, avec beaucoup, 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 beaucoup de visites et de protocoles. C'est très bien, c'est sympathique, mais il faut apprendre à vivre sans aussi. C'est-à-dire que quand vous avez perdu vos cuisiniers, vos chauffeurs, tout ça, voilà, il faut pas se sentir abandonné, pas se sentir malheureux. Il faut se dire au contraire qu'on est libre, c'est tout. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la vie que d'arriver à quand on a tout acquis, ou en tout cas acquis beaucoup de choses, d'être capable aussi de s'en passer. Voilà. Et là, le mieux pour moi, c'était d'approfondir cette idée de dépouillement avec une démarche qui sera une démarche justement dans laquelle je me dépouille de tout, c'est-à-dire non seulement du matériel mais même de mon identité, parce que le pèlerin finalement il n'est rien d'autre que lui-même, c'est déjà pas mal d'ailleurs, et on apprend à découvrir qui on est.
Je vous propose de faire un bout de chemin avec justement Nathalie, une pèlerine.
Les premiers kilomètres, les premiers jours, c'était je ressentais la nécessité d'avancer sur le chemin toute seule. Et maintenant, c'est pas une nécessité. Je sais que pour moi, en fait, ça correspond à la totale liberté. La liberté de faire pipi quand j'en ai envie, de prendre le temps qu'il faut, la liberté de parler à voix haute, mais surtout la totale liberté, c'est d'être sur ce chemin sans identité, si ce n'est celle des gens que j'ai rencontrés qui savent que je marche vers Compostelle. Personne n'a mon numéro de téléphone. Je m'interroge d'ailleurs pourquoi je souhaitais autant me couper de mon quotidien. Pour l'instant, j'ai pas les réponses.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Elle parle de liberté, hein. Vous dites aussi quand même, Jean-Christophe Ruffin, qu'on devient vite un bagnard de Compostelle. Alors, liberté ou bagnard ?
C'est une des dimensions de la liberté de choisir finalement, au fond, son supplice. C'est-à-dire que finalement, tous les matins, vous remettez votre sac sur le dos. Alors, pourquoi bagnard ? Parce qu'il y a des moments où vraiment on a envie de s'arrêter, quoi. On n'en peut plus, on trouve que c'est... On a compris, quoi, voilà. On a envie de rentrer, on a mal partout, machin. Mais on continue quand même, parce que c'est un chemin qui est orienté, et au bout d'un moment, on finit par avoir... D'abord, on va quelque part, hein. C'est pas un chemin, c'est pas un sentier de grande randonnée que vous pouvez faire dans un sens, dans l'autre. Non, il y a un but. Et puis surtout, on le personnalise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme on est un peu barré, on est un peu dans son monde, on lui parle. Vous comprenez? Et il vous parle. C'est-à-dire, il vous dit, t'es feignant, remets ton sac, tu vas pas, voilà. Et c'est vrai, quand on a envie de tout lâcher, au bout d'un moment, le chemin vous force, quoi. Vous force à continuer. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça.
Ouais. Vous l'avez raconté ensuite dans Immortel Randonnée, ce parcours de 800 km à pied sur le chemin de Compostelle. Vous parlez d'une clochardisation. Vous dites, finalement, la stupide dignité que pouvait me conférer, ma position sociale, mes titres, tout ça s'envole très vite sur le chemin.
Tout le monde s'en fiche. Je me suis clochardisé parce que comme j'aime pas dormir dans les auberges, parce que je dors mal, et puis les gens qui ronflent et tout, moi le premier d'ailleurs.
Vous avez bivouaqué, pour de vrai. Alors que c'est interdit, Jean-Christophe Ruffin.
Oui, c'est bien meilleur quand c'est interdit. C'est bien meilleur. Non, mais j'ai bivouaqué. Donc, je me suis clochardisé. Mais ça fait partie aussi d'une sorte de transformation nécessaire. C'est un chemin initiatique. C'est-à-dire que, et toutes les initiations, depuis la plus haute antiquité, passent par le corps. Une initiation, c'est une transformation de l'esprit, mais par un mouvement du corps. Et vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez sur Compostelle. C'est pas la même chose que d'y être allé en mettant un pied devant l'autre. Voilà.
À la fin de votre livre, la dernière phrase, c'est vous dites « d'ici peu, je vais reprendre la route ». Vous donnez l'impression que vous y retournerez. C'était il y a presque 10 ans ce chemin de Compostelle, vous y êtes retourné ?
Je suis retourné, oui, pour des photos et tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est que le bouquin m'a tellement... bouffé, si je puis dire, parce que il y a eu les traductions, je suis allé parler de ça partout dans le monde, enfin c'est incroyable, c'est d'ailleurs très intéressant de voir que vous allez à Pékin, vous faites une conférence sur Compostelle, la salle est pleine, c'est incroyable. Et donc, finalement, j'ai été le pèlerin de mon propre livre, si vous voulez. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a un peu empêché de repartir parce que en quelque sorte j'en faisais presque une indigestion de Compostelle. Alors maintenant ça y est, c'est digéré.
Oui. Désolé de revenir dessus alors.
Non, avec plaisir, mais c'est d'autant moins grave que maintenant justement moi aussi j'y reviens.
En tout cas, il y a un endroit où vous revenez sans cesse, c'est sur les parois abruptes des Alpes. Nous allons faire un tour avec vous, Jean-Christophe Ruffin, dans ces montagnes que vous connaissez si bien. Nous y grimpons juste après Bonnie Banane qui chante La Lune et le Soleil sur France Inter.
Sans aucun effort, sans transition, je salue. personne n'est parfait. Alors j'oublie tout ce que je sais.
Tranquille, pas aller trop vite parce que si on va trop vite au début avec la chaleur et tout ça, donc on est mal échauffé.
On
s'y met pas rapidement, on a bien du mal à monter. Alors au début on mène une cadence lente, hein, cadence du guide, tranquille. Et puis bon, après une petite pause on peut accélérer, surtout que là en plus on a les nuages qui nous cachent un peu le soleil, très frais. Alors que si on part à toute vitesse, on arrive là-haut complètement crevé. On chope des crampes, et puis après c'est fini. Le lendemain, le Mont Blanc est très compromis. Alors ça, c'est une vieille règle que mon père répète tout le temps. Un Mont Blanc, ça se gagne la veille.
Nous voilà arrivés dans un environnement que vous connaissez bien, Jean-Christophe Ruffin, et que vous affectionnez tout particulièrement, en chemin vers le sommet du Mont Blanc. Vous êtes d'accord, un Mont Blanc, ça se gagne la veille?
Oui, même plus que la veille, ça se gagne dans les semaines d'avant, c'est-à-dire que faut pas débarquer de Lyon, de Paris, je sais pas où pour faire ça, il y a quand même une acclimatation, c'est vraiment important si on veut que ça soit agréable, parce que le Mont Blanc, moi j'ai fait plusieurs fois, j'ai parfois trouvé ça très très agréable et sympathique, et parfois on tire la langue parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas en forme, etc. Donc faut être bien, quoi, faut juste être bien. Mais il a raison, en effet, faut pas se précipiter.
Alors vous n'êtes pas originaire d'une région de montagne. Hein, mais aujourd'hui, vous y passez la plupart de votre temps.
Mmh. Oui, parce que j'ai pris ce virus. C'était pas la mode encore de prendre des virus, mais non. Moi j'ai pris ça tôt et en fait pas si tôt. D'ailleurs, j'avais 18 ans par là. Et ça a d'abord été la randonnée, puis ensuite j'ai voulu compléter un peu. Je me suis dit bon, faut quand même connaître un peu des techniques. D'escalade et tout ça, donc j'ai appris aussi ça, et c'est vrai que je me suis passionné pour l'alpinisme, et au fond, dès que j'ai eu les moyens, notamment avec le Goncourt, là, ouais. Ben, je me suis acheté une maison là-bas.
Quoi. À Chamonix.
À Saint-Gervais, plus exactement, c'est une autre vallée du Mont-Blanc, mais c'est très proche, c'est-à-dire que de ma maison, on voit le refuge du Goûter, et on voit la nuit, les lumières, des frontales des alpinistes qui montent au Mont Blanc. Donc je suis vraiment en face. Quoi.
Au début, ce chalet, si j'ai bien compris, vous l'envisagez comme un pied-à-terre pour pouvoir souffler de temps en temps. C'est devenu votre résidence principale.
Bah oui, parce que si vous voulez, pour écrire des livres, c'est idéal. Bon, je continue à garder des liens avec ma ville d'origine, avec Bourges, mais la Haute-Savoie, enfin, et notamment là où je suis, si vous voulez, c'est un endroit qui m'inspire énormément parce que, au fond, c'est un endroit qui est hors du temps. Vous n'êtes pas heurté par le présent. Vous voyez, le présent n'est pas là. Si vous voyez passer, je sais pas quoi, camion de pompiers, un truc, non, là, il n'y a rien. Donc, vous pouvez tout imaginer et le réel autour de vous ne vous contredit pas. Voilà. Vous voyez, de chez moi, la vue que je peux avoir, elle était la même il y a 100 ans, il y a 200 ans, c'est pareil, quoi, ça n'a pas bougé.
Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre de vos
chambres ? Ce qui a changé, c'est les glaciers, parce que même en 20 ans, ils ont fondu, pas mal. Hein. On voit les dômes de Miage, on voit l'aiguille de Bionacé, et puis l'aiguille du Goûter, et le dôme du Goûter, enfin...
Ouais. Ce qui vous plaît quand vous êtes dans ce chalet, dans votre vallée, c'est le côté cocon, protecteur, ou au contraire, justement, ces envolées, ces immensités qu'il y a devant vous ?
Mais il y a un malentendu là-dessus, parce que moi j'ai toujours vu la montagne comme un lieu, justement, de grands horizons. Il y avait ce film de Ray Buffa qui s'appelait Les Horizons Gagnés, vous savez, c'était ça, c'était l'idée. Moi, je suis resté à ça. Mmh. On monte pour voir plus loin. Bon, et puis un jour, un ami qui m'a dit, la montagne, en fait, c'est le contraire, c'est une espèce de truc dans lequel on s'enferme. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent chez moi, par exemple, et qui sont oppressés comme ça parce qu'ils voient cette montagne, ils ont l'impression qu'elle les enferme. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est vraiment un lieu d'ouverture. Mais en effet, c'est aussi un lieu clos, c'est vrai. Ouais. C'est un lieu où le regard bute sur les lointains.
Pas loin de Chamonix, hein, dans ces montagnes, est enterré Roger Frison-Roche, célèbre alpiniste et écrivain. Le voici au micro de Jacques Chancel en 1970.
Frison-Roche, si je vous demandais par exemple de me raconter la montagne, vous la raconteriez comment ?
Je la raconterais avec beaucoup de poésie si je pouvais m'exprimer en poète. Parce que moi, la montagne, c'est pas simplement l'escalade difficile, vous savez, c'est aussi la montée en peau de phoque dans la neige poudreuse le matin quand il fait très froid, c'est le rayon de soleil sur la cime, c'est la découverte d'un horizon quand on a l'impression que la Terre s'éveille, vous savez, quand on est sur un 4000 à 5 heures du matin et qu'on voit se lever le soleil, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression justement d'assister à un renouveau.
Frison-Roche, en 1970, vous qui aimez bouger, Jean-Christophe Ruffin, est-ce qu'il vous arrive d'être contemplatif en montagne ?
Ben non, c'est pareil, je suis aussi actif moi d'abord, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose, et puis c'est à la faveur de l'action, par exemple aller, je sais pas, faire un sommet, grimper une paroi, etc. C'est à la faveur de ça qu'on peut avoir des moments comme ça de... Je n'avais pas de contemplation, parce que, encore une fois, je ne suis peut-être pas assez patient. En tout cas, la méditation, tous ces trucs-là, ce n'est pas pour moi. Mais d'illumination, je dirais. Ouais. Il le rend bien, d'ailleurs, Frison-Roche, sa petite description. Et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, la haute montagne. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve intéressant, c'est avec le temps, avec l'âge. Je m'intéresse moins à la très haute montagne. Ces univers désertiques de glace, de roc, etc. m'attirent moins. Finalement, j'aime de plus en plus la montagne vivante, c'est la moyenne montagne, la montagne avec des vaches, avec des chalets, avec des gens qui sont là, qui vivent. Bon, malheureusement, la vie de montagne se raréfie, mais quand même, elle existe encore. Et voilà.
Avec quand même un goût pour les parois abruptes, vous n'avez aucun problème, voire vous aimez la sensation d'être au-dessus du vide.
C'est-à-dire que le vide, on s'y fait. Moi, j'ai pas d'appréhension du vide du tout. Je trouve qu'il y a même un confort du vide. C'est d'ailleurs, j'ai eu un petit accident là il y a 2 ans au Sultanat d'Oman, en grimpant une paroi, je suis parti avec un bout de rocher et je suis tombé. Et pourquoi je me suis fait mal ? Parce que j'étais justement pas dans le vide. J'étais trop près du sol, trop près d'une vire, d'un relief. Et finalement, plus vous êtes dans le vide, plus vous êtes en sécurité.
Ah oui, c'est une façon de voir les choses.
Ben oui.
Quand il n'y a pas d'obstacle, on risque pas de se cogner.
Exactement. On vole. D'ailleurs, c'est le mot qu'on emploie. On vole. Ouais. En fait, le vide est un matériau qui vous entoure, qu'on arrive tout à fait à apprivoiser.
Qu'est-ce qu'être un aventurier pour vous, Jean-Christophe Ruffin, en ce début de 21e siècle ?
C'est difficile à dire. Je pense que l'aventure, c'est de se mettre à l'épreuve de soi-même. Et c'est vrai que de ne pas rester, comme disent les alpinistes, dans sa zone de confort, etc. C'est-à-dire d'accepter, par exemple, d'avoir une pratique qui n'est pas celle nécessairement tracée devant vous. Alors, moi, c'est vrai que l'aventure, pour moi, elle a pris la forme de l'humanitaire. Et il y a des jeunes médecins, aujourd'hui, qui me demandent, ils me disent que je voudrais faire pareil. Mais en réalité, on ne peut pas faire pareil, parce que l'aventure dépend d'une époque. Quel sera pour eux le domaine de l'aventure ? J'en sais rien, mais le préalable, c'est de ne pas faire ce qu'on attend de vous. Quoi. Voilà. Et après, je ne sais pas si c'est dans le domaine physique, sportif, j'en sais rien. Mais je pense que c'est une disposition intellectuelle. C'est la rébellion. En fait, c'est une forme de rébellion. Je veux dire, il y a, pour moi, dès que l'aventure, si vous voulez, devient organisée, institutionnelle, dès qu'elle n'est pas le fruit d'une révolte profonde, si vous voulez, elle est un peu suspecte à mes yeux.
Merci Jean-Christophe Ruffin. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Le Flambeur de la Caspienne, aux éditions Flammarion. Et puis nous allons mettre en ligne, sur la page du Temps d'un Bivouac, sur franceinter.fr, les références de tous les autres ouvrages dont nous avons parlé tout au long de notre discussion. Un grand merci à vous.
Merci.
Dans un instant, nous partons écouter bramer les cerfs le soir au fond des bois avec le photographe animalier Jérémy Villet. C'était Black Pumas qui chantait Black Cat et la programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Muriel Pérez.
Daniel Fievé, Le Temps d'un Bivouac.
Alors on va s'installer là, on va mettre un affût. C'est-à-dire qu'on va mettre du camouflage et on va s'asseoir, on va plus bouger. Et le camouflage va cacher la forme qu'on a de l'homme. Ils vont pas voir deux jambes, ils vont pas assimiler ce que c'est les cerfs. Et là on a une vue sur une mare où ils peuvent venir. Il y a un jeune cerf qui est là, juste devant. On voit à travers les branches, on aperçoit.
Bonjour, Jérémy Villet.
Bonjour.
Vous êtes photographe animalier et c'est vous que l'on entendait chuchoter à l'instant. Cette scène, vous la vivez depuis quelques jours tous les soirs et tous les matins aussi parce que vous avez un peu épousé le rythme de vie des cerfs car c'est la saison du brame du cerf qui a commencé. Vous allez nous parler de ce brame, mais d'abord, parlez-nous de la passion que vous vouez à cet animal. Où et comment se sont déroulées les premières rencontres avec les cerfs?
Bizarrement, dans mon lit, en fait, je suis né dans une ferme au milieu des champs. Et quand j'étais jeune, de ma chambre, j'entendais ce cri qui est d'abord effrayant, qui est un cri un peu sorti de la préhistoire, on pourrait croire un dinosaure même. Et ça m'a très vite intrigué. Et en grandissant, mes parents m'ont laissé partir avec notamment mon grand frère, voir ces cerfs qui brament au mois de septembre, au mois d'octobre.
C'est-à-dire qu'à 10-12 ans, vous aviez le droit d'aller avec votre frère, qui a juste 2 ans de plus que vous, dormir en pleine forêt?
Ouais, exactement. Ouais, en fait... Mes parents étaient des mauvais parents ou des bons parents, puisqu'ils m'ont permis justement de vivre cette passion qui est maintenant mon métier.
Alors vous racontiez évidemment à vos amis ce que vous aviez vu et entendu. Ils ne vous croyaient pas. Alors c'est pour ça que vous avez pris des photos au début pour comme preuve.
Ouais, je me souviens à l'école, je disais aux gens que j'avais vu des cerfs bramer. Ils ne savaient pas ce que c'était. Du coup, je me suis mis à faire des photos à travers des jumelles d'abord avec mon et puis ensuite à travers une longue vue et puis après avec un vrai appareil photo que plus tard. Mais D'abord, c'était une preuve, ouais. Et puis après, je me suis servi de la photo pour montrer ce qui me procurait des émotions. Par exemple, les bois d'un cerf qui passent à travers les fougères, on voit juste des pointes comme deux épées qui passent au crépuscule et un son après. C'est quelque chose qui travaille beaucoup votre imaginaire. Quand vous fermez les yeux le soir en rentrant, vous voyez ça apparaître.
Alors le son, hein, ce brame du cerf, on va écouter à quoi ça ressemble. On comprend que ça peut avoir un côté un peu terrifiant, surtout quand on est seul le soir dans une forêt. Pourquoi il fait ce bruit-là, le cerf, en ce moment ?
D'abord, pour faire l'intéressant, en fait, les cerfs, en ce moment, rejoignent des endroits où il y a les biches. Le reste du temps, ils vivent séparément. Et les cerfs s'approprient l'endroit où les biches se cachent. Et ça devient ce qu'on appelle une place de brame. Le cerf aiguise ses bois contre les arbres, marque son territoire et devient un peu le chef de cette zone. Et il crie très fort pour montrer sa force. En fait, ça participe à la sélection naturelle. C'est comme ça qu'il donne sa puissance. Et d'autres cerfs, qu'on appelle les cerfs prétendants, viennent autour et crient à leur tour. C'est tout, ce sont des joutes verbales qui les départagent. Et s'ils n'arrivent pas à se départager comme ça, alors l'autre cerf peut venir pour se battre. Mais c'est tout un rituel.
Autrement dit, ça n'est pas pour attirer la femelle, c'est pour se départager entre mâles. Ils font, comme vous dites, des joutes verbales.
Exactement.
C'est un combat à celui qui hurle, qui donne de la voix le plus intensément.
Ouais, exactement. En fait, les animaux départagent soit par la silhouette ou par le cri ou par la force qu'ils dégagent par rapport à leurs rivaux. Et là, par exemple, quand ils n'arrivent pas à se départager par la voix, l'autre cerf a le droit de rentrer dans la zone, le cerf prétendant. Et là, ils font ce qu'on appelle une marche parallèle. Alors justement, ils se jaugent, ils se mettent de profil chacun, et ils se regardent pour voir qui est le plus grand, le plus fort. Tout ça, c'est des choses de leur instinct qui participent de la sélection naturelle.
Et s'ils n'arrivent pas à se départager, si aucun ne cède, alors c'est là qu'a lieu l'affrontement?
Oui, c'est un combat, mais qui n'est pas une charge comme ça dans n'importe quel sens. C'est vraiment un moment où chacun pose ses bois au sol et s'enchevêtre et pousse très fort d'un sens à l'autre. Alors parfois, ça part un peu sur le côté et certains peuvent mourir, mais la plupart du temps, c'est vraiment juste une joute superbe avec toute une cérémonie. C'est pour ça que c'est pas dangereux, les cerfs. C'est plutôt nous qui sommes dangereux pour eux quand on les effraie à ce moment-là.
Mais les scènes que vous décrivez, vous y avez assisté? Vous avez assisté à ces confrontations d'abord à la voix et ensuite ce choc bois contre bois?
Oui, bien sûr, j'invente rien. Et alors, c'est juste des scènes qui sont très rares. Et autant, par exemple, moi, je fais des photos. Donc, là, ça fait, par exemple, 2 semaines que je vais en forêt. J'ai déjà passé une dizaine de nuits dehors. J'ai toujours pas fait de bonnes photos. Mais un jour, sans doute, j'espère justement que ça arrive. Et c'est parce qu'on pense à tout ce qui peut se passer qu'on reste caché sous un arbre.
Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent, justement, quand on arrive enfin à capter une de ces scènes si rares? Il faut garder toute sa clairvoyance pour justement prendre de bonnes photos, alors que l'excitation doit être à son maximum.
Ouais, exactement, vous le décrivez bien. En fait, la photo, c'est très lié à l'imaginaire. On voit plein de choses et on essaie de se dire qu'on peut les réunir dans une seule image, puisqu'on n'a qu'un instant pour le faire.
Ouais.
On a rêvé qu'un cerf passe dans la brume avec un contre-jour et un étang. Et quand la silhouette arrive, on tremble d'avoir fait les bons réglages et on tremble tout court parce qu'on est ému. Et donc, c'est pas grave, tant mieux, il faut mieux trembler et être ému, c'est pour ça qu'on est là.
Ouais. Quel conseil vous nous donneriez à nous qui ne sommes encore jamais allés à écouter bramer le cerf le soir au fond des bois ou le matin, c'est ça, le bon moment
fait,
pour le faire.
Ouais, en fait c'est toute la nuit. Les cerfs vivent la nuit puisque c'est la partie où généralement nous on dort, donc ils sont un peu plus tranquilles.
Ouais.
Parce qu'ils ont terriblement peur de nous depuis la nuit des temps, on est leur prédateur et l'odeur humaine, ils détestent ça. Alors la première chose justement, c'est de se mettre face au vent, on dit à bon vent, pour que notre odeur aille derrière nous et qu'elle porte pas jusqu'au cerf. Mais le plus important, vous avez bien dit, c'est d'écouter. On est là pour écouter, ça tombe bien, on est à la radio. Juste aller le soir dans une grande forêt où on sait qu'il y a des cerfs, il y en a vraiment beaucoup d'endroits en France.
Mmh. Alors par exemple, des exemples de forêts où
autour de Paris, puisqu'on est à Paris, mais à plein d'autres endroits. Autour de Paris, il y a Fontainebleau, Chantilly, Rambouillet.
Vous, c'est à Rambouillet, hein,
ouais,
la forêt de Rambouillet que vous explorez dans tous les sens.
Alors n'y allez pas parce que vous tomberez sur moi. Mais, mais
vous occupez le terrain, tel un cerf.
Justement, je n'occupe rien du tout. Il faut se faire tout petit, se mettre dans un coin. Alors là, on peut juste rester sur un chemin, y aller le soir, ne pas claquer les portes de sa voiture et rester sur le chemin à écouter.
Ça, c'est un conseil que vous donnez. Hein.
Ouais.
Rester sur le chemin, c'est important. Pour quelle raison?
Parce qu'en fait, quand on va rentrer sur le territoire des cerfs, on va très vite les déranger. On va laisser notre odeur et on peut perturber un spectacle auquel on assiste. Quand on est invité à un mariage, on se met pas debout sur la table des mariés ou quoi que ce soit. Donc, il vaut mieux Et puis ce qui est trop bien, c'est d'apprendre aussi à aller quelque part et ne pas obtenir exactement ce qu'on est venu chercher, ce que la nature procure. Maintenant, dans nos vies, on peut obtenir tout ce qu'on veut avec notre téléphone ou quoi que ce soit, commander à manger. Ou... Mais là, en fait, on s'assoit sous un arbre et on maîtrise plus rien. On accepte d'être tout petit et de laisser la nature revenir. On va voir des feuilles bouger, entendre des bruits. On ne sait pas les identifier. On va entendre un autre bruit. On va croire que c'est un cerf. Ça peut être juste un écureuil. Ça fait un bruit, beaucoup de bruit. Surtout en ce moment, c'est très sec. Et en fait, rien que ça, c'est une bonne excuse pour aller dans la nature. Et puis, au bout d'un moment, on va entendre ce cri au loin. Et justement, parce qu'on le voit pas vraiment et qu'on l'imagine, c'est très fort. Je pense qu'ensuite, après, c'est déjà une émotion suffisamment grande que d'essayer de les voir, c'est ce qui est beaucoup plus dur.
On a donné quelques noms de forêts en région parisienne, mais on ne va pas être que parisien.
Ouais, bien sûr,
conseillons d'autres forêts aux quatre coins de France.
Toutes les grandes forêts de Maniales, presque, il y a des cerfs. Alors on peut aller en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, une mythique forêt, on verra pas des druides, mais il y a plein de cerfs.
Ça doit être formidable, la forêt de Pimpon pour observer les cerfs.
Sous les grands hêtres et les grands chênes, la forêt de Pimpon est remplie de cerfs. Et puis tout à l'heure, Jean-Christophe Ruffin parlait de Bourges puis de Chamonix, ces deux endroits où on peut voir, à côté de Bourges, il y a la forêt de Vierzon, la forêt de Troncet où il y a plein de cerfs, et puis il habite à Saint-Gervais, juste au-dessus de Saint-Gervais, sur la falaise de Miage, il y a des cerfs qui brament. Donc un peu partout, en fait, on peut entendre des cerfs.
Est-ce que ça peut être dangereux ?
Alors non, ça peut être dangereux surtout pour les animaux. Donc déranger des animaux à ce moment-là, ça peut les emmener sur un autre territoire, où par exemple un chasseur aurait le droit à cet endroit de les chasser, ou ça peut leur faire traverser des routes et percuter des voitures, ou des choses comme ça.
Mais on ne risque pas de se faire charger par un cerf ?
Non, ça n'arrive pas. Ça arrive parfois quand un cerf décide de sortir de la chasse, et les chasseurs avancent, et parfois un chasseur malencontreusement prend un cerf qui a décidé de sortir de là. Mais là, dans cette situation de brame, les cerfs ne chargent pas. Ils se poursuivent dans des joutes qui sont très régulées. Donc quand un cerf va vous voir, il va partir en courant. Et c'est d'ailleurs ce qui ne doit pas arriver. Mmh. Et un loup, par exemple, ou n'importe quel autre animal en France, a aussi terriblement peur de vous. Mmh. Donc c'est d'abord nous qui sommes dangereux pour les animaux.
Et on n'a pas de risque de croiser, pour le coup, des chasseurs. Il faut faire aussi, j'imagine, attention à ne pas se retrouver sur des terrains ouverts à la chasse au moment où on va se promener.
Ouais, exactement. Alors si on va en forêt de Maniales, la chasse a lieu que le lundi, mais surtout si on reste sur des chemins, on verra des pancartes partout. Et la chasse en forêt de Maniales ouvre normalement que fin octobre ou mois de novembre, quand les chasseurs ont plus de feuilles pour pouvoir au moins savoir où ils tirent.
Alors vous, en ce moment, vous y allez tous les soirs, c'est un spectacle. Vous vivez ça comme une petite aventure dont vous ne vous lassez pas.
Ouais, exactement. Je vais faire des photos un peu loin dans le monde d'habitude.
Oui.
Et par exemple, je suis allé photographier la panthère des neiges en Himalaya, et c'était au mois de février. Et je pensais qu'à une chose, c'était rentrer en France pour trouver les bois que les cerfs perdent chaque année. En fait, leur grand bois si impressionnant, il tombe et il repousse en 6 mois. Ouais. C'est pour ça que le cerf est un symbole de vie dans beaucoup de cultures et de religions. C'est un animal mystérieux qu'on voit jamais, mais qui est magnifique quand on le voit.
C'est-à-dire que lorsque vous prenez vos photos, alors vous aimez bien les territoires enneigés, hein, beaucoup le Grand Nord, la Finlande, la Suède, le Canada, parce que vos photos sont souvent sur fond de neige, les animaux se détachent sur ces paysages enneigés. Vous avez toujours dans un coin de votre tête les cerfs de votre enfance.
Ouais, plus que tout. Et tant mieux, je pense que on s'attache particulièrement aux endroits qu'on commence à bien connaître, surtout dans la nature. Quand on connaît bien un endroit, on sait où on doit se placer, on connaît les habitudes des cerfs et on les dérange pas. Et c'est que là qu'on arrivera à vraiment être proche de la nature. Alors quand on part à l'étranger pendant un mois, il suffit de pas d'un mois pour savoir les habitudes des animaux. Ouais. Donc rien que pour ça, je m'attache particulièrement aux cerfs et en France. Ouais.
Merci Jérémy Villet. Je signale que vous serez demain matin pour une conférence sur les cerfs, justement ce dimanche à 11h au Festival Chiloé. Festival dédié à la nature et aux micro-aventures. Ça se tient tout ce week-end, hein, ce festival, à la Fondation Good Planet dans le Bois de Boulogne. Et nous allons mettre un lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Et puis on peut aussi vous suivre sur votre site, hein, sur Internet. Et on paraîtra normalement en octobre un livre aux éditions Duchesne de vos photos intitulé justement Première Neige, pour voir tous ces animaux que vous avez pu photographier sur fond de neige. Un grand merci. Merci à vous, c'était un vrai plaisir de partir écouter les cerfs avec vous, Jérémy Villet.
Merci beaucoup.
Le temps d'un bivouac replie sa tente pour réagir ou nous envoyer un message. Rendez-vous sur la page Facebook du temps d'un bivouac ou sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.